essentiel, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. J'espère que ça vous intéressera. On pourra peut-être d'ailleurs faire quelques comparaisons avec le 21e siècle, c'est peut-être ça aussi qui peut éventuellement vous intéresser. Avant de commencer, je vais dire très clairement mon objet d'étude, la méthode que j'ai employée, que j'ai utilisée, et puis peut-être, je pense que c'est une bonne façon de commencer, vous dire pourquoi j'ai choisi ce sujet et comment ça m'est venu à l'esprit. Parce que c'est souvent révélateur pour comprendre une démarche intellectuelle. Eh bien, donc l'objet d'étude est extrêmement clair, simple, c'est les fêtes, ce sont les fêtes qui ont lieu en France entre 1770, en gros, cette date n'a pas intérêt particulier, mais je veux bien dater, et la Révolution, surtout pas la Révolution, parce que je mets ça à part, il y a eu des fêtes pendant la Révolution, comme vous le savez, mais ça n'a rien à voir et je ne veux pas du tout déborder sur la Révolution, je pourrais aussi expliquer pourquoi si ça vous intéresse. Donc, quel type de fête? Alors, 70-89, donc c'est à cheval sur le règne de Louis XV, fin du règne de Louis XV et du règne de Louis XVI, hein, c'est tout à fait ça. Alors, quelles fêtes? Une idée générale qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est qu'elles sont multiples. On vit, alors ça, pas seulement au XVIIIe siècle, mais tout l'Ancien Régime vit dans des fêtes continuelles. Je lisais récemment un livre qui était sur la police au XVIIIe siècle et qui confirmait mon propos, à savoir que dans les années 80 exactement, il y a le marché Saint-Antoine dans Paris qui est installé. Donc il y a le guet qui arrive pour encadrer la mise au point de l'inauguration de ce marché qui est un marché couvert, immédiatement fête, seulement avec musique, symphonie, fifre et fête populaire, donc encadrée bien sûr par le pouvoir. Alors donc des fêtes privées aussi, sur lesquelles j'ai beaucoup assisté, des fêtes populaires dans Paris évidemment diverses, et bien sûr puisque nous sommes à Versailles, des fêtes royales, qui elles sont tout à fait distinctes parce que soumises à l'étiquette évidemment, donc je vais vous parler. Alors il est temps je crois que je vous confie les raisons qui m'ont conduit à choisir ce sujet. En fait il y a trois raisons. Il y a deux anecdotes qui sont pour moi extrêmement symboliques et je m'y référerai encore aujourd'hui, vous allez voir, ça me semble absolument extraordinaire comme ce qu'on peut en tirer. Et puis une troisième raison plus philosophique que je vous donnerai après. Alors, je vous livre cette première anecdote qui est donc un fait réel rapporté par Madame de Genlis, justement, pour faire le pont avec ma dernière conférence ici, qui se passe au château de Genlis, c'est dans le nord de la France. Il y en a vu plusieurs près de Chauny, je crois. Et il s'agit de faire une fête pour accueillir le beau-frère, le marquis de Genlis, qui est le beau-frère de la célèbre Madame de Genlis, dans son château. Alors on fait venir un peintre, qui est un modeste peintre, qui doit, à la va-vite, décorer un petit théâtre. Vous savez que les gens, à l'époque, étaient complètement passionnés par le théâtre, et que les théâtres privés pullulaient dans la France entière. Et donc ce peintre est un peu naïf, pas très modeste, il se prend pour Raphaël ou pour le Gréco, enfin, vous voyez, alors qu'il peint, il est tout à fait médiocre. Et on décide, enfin, la famille de Genlis et Madame de Genlis, la première, décide de faire un canular dans des proportions absolument extraordinaires. Une mystification dont ce pauvre peintre va être victime. Alors, avant de commenter l'incident, je vous le donne. L'incident est le suivant. Alors, d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les gens du château sont mis à contribution. C'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas seulement les propriétaires, mais l'intendant, le jardinier, les domestiques sont mis au parfum, comme on dirait vulgairement de nos jours, pour qu'ils contribuent à la supercherie. Le peintre arrive, alors il s'agit, d'abord, il faut comprendre le programme, donc il s'agit, parce que ces gens sont aussi extrêmement littéraire, de s'appuyer sur le Don Quichotte de Cervantes, qui est très à la mode à l'époque, pour faire une espèce de montage dans lequel va participer ce peintre dont je viens de parler, malgré lui. Et donc, de reconstituer une scène dans l'esprit du Don Quichotte de Cervantes. La scène programmée est la suivante. On vole les habits du peintre, avec la complicité, encore une fois, du jardinier. On lui dit que c'est donc... On a retrouvé le voleur et qu'il va être qu'il va avoir un tribunal et qu'il va être condamné. Une véritable mascarade, des déguisements. Le propriétaire du château se déguise en juge. Il y a une véritable scène judiciaire qui est organisée. On fait venir le peintre. On lui dit qu'on a retrouvé son voleur, qu'il est la victime, et on lui dit qu'on va condamner à mort le fameux voleur qui n'existe pas. Il n'y a pas de voleur, tout ça est une supercherie. Le peintre est effrayé, il dit mais c'est bien, il faut le condamner à mort, c'était très bien, c'est parfait. Je relisais la scène, elle est encore plus extraordinaire car elle dure plusieurs jours. Et le peintre va rester dans la maison. Enfin, je ne veux pas trop développer parce que je vais mordre sur ma conférence, vous voyez. Mais, donc, il faut interpréter ensuite la scène. Donc, finalement, si on réfléchit à la scène, c'est une scène qui s'appuie sur la littérature. Les gens sont extrêmement cultivés. Donc, Quichotte, il y a un barbier qui figure le fameux un barbier qui est représenté, vous savez peut-être, dans le Don Quichotte. Et les... Premier point, donc un aspect très littéraire. Deuxième point, on se moque des institutions d'Ancien Régime, car les propriétaires s'érigent en juge et font une fois qu'on a retrouvé le faux voleur et qu'il est condamné à mort, on dit qu'on va le gracier avec l'appui de sa prétendue victime, qu'il accepte, donc on va le gracier. Et comme il a accepté de le gracier, on le fait chevalier. On l'a dit, les chevaliers, ils sont trois chevaliers. On pourrait rêver, enfin, on pense que c'est dans une scène complètement excellente. La réalité la plus pure. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où il est gracié, où la fausse victime accepte qu'il soit gracié, que son voleur prétendu soit gracié, tout le monde se met à pleurer. Car on finit par oublier que la scène est jouée, et c'est le sentimentalisme du XVIIIe siècle qui prend le dessus. Vous savez qu'au XVIIIe, les larmes sont à la mode, et que si vous ne pleurez pas au théâtre, vous passez pour un cœur sec. Il faut essayer de comprendre ça. Que même Voltaire, qui apparaît souvent comme quelqu'un d'ironique, qu'on présente comme quelqu'un d'un peu, sec, pleure au théâtre. Alors tout le monde pleure. Donc vous voyez, et on oublie la supercherie, car on dit ça se passe bien, car le fameux peintre pleure lui aussi, tout le monde pleure, et ça se termine comme ça. Il va y avoir des prolongements successifs dont je ne vais pas vous parler. Donc il y a oubli, mystification extrêmement forte, avec une énergie incroyable qui est déployée, parce qu'il faut une invention absolument incroyable, donc mystification, énergie incroyable, moquerie, dérision complète et perte du sens du réel. Vous voyez tout ce qu'on peut dire autour de ça. Donc vous voyez, c'est ça la première anecdote. Je me suis demandé si on ne pouvait pas élargir la question et réfléchir à d'autres faits et voir un peu plus loin ce que ça signifie. Alors un deuxième exemple, je vais être beaucoup plus bref, et qui est celui-là très amusant et qui montre l'extrême snobisme, on peut dire, de cette société parisienne de la fin du XVIIIe siècle. Ça se passe en plein Paris, quai Malaquais. Une dame extrêmement riche, extrêmement cultivée, extrêmement un grand amateur d'art, qui s'appelle la duchesse de Mazarin, décide de faire une fête chez elle, mais de dépasser toutes ses rivales en faisant quelque chose de vraiment spectaculaire. Alors tout le monde connaît les pastorales de Boucher et la mode des bergeries. Alors on fait venir des vrais moutons dans l'appartement. On fait venir des moutons dans l'appartement, on les cache derrière des transparents. Et une fois que les convives sont invités pour danser, eh bien, se passe une catastrophe. Les moutons, je ne sais plus par quel endroit, franchissent les barrières qui devaient les séparer de la salle de danse. C'est un chaos épouvantable. Ils foncent dans les verres, ils cassent tous les verres. L'appartement est absolument dans un état absolument catastrophique. Et après, les écotiers se moquent de cette duchesse de Mazarin qui, on dit, elle a un bon teint, un joli teint, cette femme, mais son teint ressemble à la viande de boucherie. Comme ça. Vous voyez où on en est. Bon. Alors, donc, bon, il y a un problème, on dit, quand même, dans cette société. Alors, le troisième point, et j'en finirai là sur mes réflexions préalables, le troisième point, eh bien, c'était une réflexion que je menais, enfin, depuis très longtemps, il y avait eu un colloque, peu importe, je ne vais pas rentrer dans des choses qui ne vous intéresseraient pas, mais il s'agissait de réfléchir au phénomène fin de siècle, de tous les siècles. Il y a un phénomène fin ancien régime qui dépasse le problème de la fête, car je prends la fête comme symptôme de quelque chose d'autre. Et je prends la fête comme symptôme d'une inquiétude qu'on essaie de dissimuler, d'une sorte de manque de repères qui commence à surgir et sur lequel je pourrais revenir plus tard si vous voulez, et dont les gens se réfugient dans une espèce de réjouissance spectaculaire. Alors, ça ne contredit absolument pas l'idée que nous sommes dans un moment qui annonce la révolution, si vous voulez. C'est un moment extraordinaire de réforme, on cherche une réforme. Mais ce qui est intéressant, c'est la coexistence. Là, je pourrais faire une autre conférence là-dessus, si vous voulez. C'est la coexistence de cette frivolité extrême et de cette mystification sur laquelle je vais revenir et du plus grand sérieux dans les réformes de tout ordre au moment où le pays traverse une crise majeure de son histoire, notamment dans le domaine financier et social. Donc voilà. Alors, j'avais dit tout à l'heure, je ne l'ai pas fait, quelle serait ma méthode. Là, je ne vais pas trop vous embêter avec des aspects universitaires. En fait, ma démarche, j'aime bien les problématiques quand même et les méthodes. Il ne faut pas se lancer comme ça dans le passé sans s'y rattacher. Ça relève de l'histoire des représentations et de l'histoire culturelle et aussi surtout des pratiques culturelles. Bien sûr, je pourrais développer ce point qui est ce type d'historiographie vient de la fameuse histoire des mentalités qu'on a essayé de dépasser par l'histoire des représentations, mais bien sûr, il faudrait creuser ça. Voilà. Alors, je vais vous parler donc de trois types de fêtes d'abord, et ensuite des folies. Alors, quel est le lien entre les deux? Eh bien, il est facile. Vous connaissez tous ces folies, ce qu'on appelle les folies, ce sont des résidences secondaires des financiers ou des gens de la noblesse vont se faire construire dans les environs des grandes villes, essentiellement à Paris, mais aussi dans quelques villes de province, et qui sont surtout, vous pourriez déjà me faire une objection justifiée, car c'est surtout pendant la Régence que ces folies vont commencer à être établies, mais elles se multiplient dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, et en particulier à la fin du XVIIIe. Alors, quel rapport entre les fêtes et les folies? Eh bien, c'est que ces aristocrates, ces financiers, ces gens, ces élites aussi parfois, on peut dire, ne se contentent plus de leur hôtel particulier, parisien, mais veulent des espaces ou des lieux plus festifs et, je dirais, plus dissimulés, qui sont ces folies, puisque ce sont des petits bijoux architecturaux, comme vous savez sans doute, c'est très connu. Ils font appel aux meilleurs peintres, aux meilleurs ornementalistes, mais ça se situe à l'extérieur des villes, dans la périphérie. Il y en a aussi quelques-unes dans les villes. Le paradoxe est le suivant, et j'en aurai terminé sur l'articulation des fêtes et des folies. Folie, pourquoi le mot folie? On peut avoir plusieurs raisons. C'est parce qu'il n'y a plus aucune limite dans les dépenses. Espèce de caprice qui fait que les gens qui commandent ces folies à des architectes sont sans limite financière. C'est pour ça qu'on parle de folie. Mais alors le paradoxe est le suivant, c'est que, comme je vous le disais, il s'agit d'être un peu à l'écart pour faire des fêtes qu'on ne veut pas trop montrer au grand public ou aux écotiers, à la limite, quand elles tournent mal ou qu'elles sont un peu grivoises, plus que grivoises, mais en même temps, paradoxe, parce qu'il faut que ça se montre. Vous voyez, on pourrait théoriser ça, c'est un privé public. Il faut que l'espace privé et intime dans lequel on se dissimule un peu soit aussi visible pour montrer qu'on a une façade sociale et qu'on est un seigneur dispendieux. Vous voyez là, je dis paradoxe, c'est presque la contradiction qui est intéressante. Bon, alors, donc trois types de fêtes, je vais commencer par là, très différentes. Les premières fêtes, ce sont des fêtes populaires qui ont lieu dans des vauxhalls. Je vais développer ce point, le mot vient de l'Angleterre. Et ça, c'est très particulier, ça n'appartient en propre qu'à la deuxième moitié du XVIIIe. C'est pour ça que c'est très bien pour mon sujet, vous n'en trouverez pas avant. La deuxième type de fête, eh bien, ce sont les fêtes privées, qui se développent de manière, comme je vous l'ai montré déjà, de manière extraordinaire à la fin de l'Ancien Régime. Et je terminerai, puisque nous sommes à Versailles, par les fêtes royales, qui donc, ont un rôle extrêmement important à Versailles, et aussi dans la ville, puisque généralement elles sont accompagnées d'une fête populaire, qui parfois tourne mal, je vous le montrerai. Alors les vauxhalls, alors ça c'est tout à fait intéressant, on commence à s'y intéresser seulement maintenant. Qu'est-ce que c'est qu'un vauxhall? En fait, c'est un espace de loisirs, un peu comme on aurait de nos jours Disneyland, ou vous savez, c'est pas de loisirs qui sont aux environs de Paris. Alors, il n'y a pas les mêmes moyens, mais enfin, c'est en plein Paris, là, cette fois-ci. Il y en a plusieurs qui sont créés les uns après les autres et qui, chaque fois, attirent beaucoup de public, mais très vite, les gens se lassent. On en refait un, tout de suite après. Alors, c'est par exemple, voilà, quelques vauxhalls. Le vauxhall de Toré. Toré est un artificier. Deuxième vauxhall, le vauxhall des frères Ruggieri, alors tout le monde connaît peut-être ce nom, parce qu'il existe toujours, c'est des grands artificiers. Il n'y a pas de vauxhall sans feu d'artifice. Et puis, le Colisée, la redoute chinoise aussi, les chinoiseries de l'époque, vous devinez, et le Colisée, c'est surtout celui-là sur lequel je vais surtout insister, parce que c'est peut-être le plus spectaculaire, et je vais essayer de montrer ce qu'il signifie. Donc le Colisée, comme son nom l'indique, c'est donc un espace, c'est aussi un monument qui rappelle le Colisée romain de Vespasien, hein, bien sûr, et qui est situé entre les rues du Colisée, de Ponthieu actuel et l'avenue Matignon, tout près des Champs-Élysées, vous voyez. Et il atteste, le point essentiel, c'est qu'il atteste la volonté de créer un lieu monumental, un monument vraiment gigantesque, car nous, à cette époque, le gigantisme est complètement à la mode. Vous savez, vous connaissez les projets utopiques, d'ailleurs, on pourrait rattacher ça. Là, c'est un projet réel, mais il y a des projets utopiques. Vous connaissez tous les projets de Ledoux, de Boulet, qui Arquessenant, enfin, qui souvent n'ont pas abouti. C'est pour ça que vous appelez les utopiques. On est pris d'une espèce, à l'époque, de fièvre, de gigantisme et de spectaculaire. Alors là, on organise des jeux, à l'époque, avec des jeux de loi, des jeux d'animaux, souvent très cruels d'ailleurs. Il s'agit de couper le cou de loi d'un seul coup de couteau ou d'un mât de cocagne, choses comme ça. Et c'est un moment de frénésie commerciale, de spéculation. Évidemment, et généralement, beaucoup de gens, de spéculateurs font faillite avec ces fameux vauxhalls. Ça attire une foule cosmopolite venant de partout, de toutes les ordres, de toutes origines, avec des femmes évidemment de mauvaise vie qui sont là, des demi-prostituées, ou des prostituées réelles, des gens de la bonne compagnie qui veulent s'encanailler. Il se passe beaucoup de choses. Et par exemple, j'ai découvert récemment. Commence à en parler aussi, s'il y en a qui s'intéressent à l'histoire de l'art, là je n'en parle pas beaucoup dans mon livre, mais je l'ajoute, que c'est dans ce Colisée que des expositions libres ont lieu et qui ne sont pas encadrées par l'Académie de peinture, voyez-vous, puisque c'est l'Académie de peinture qui, à l'époque, encadre toute la production artistique officielle. Donc, c'est une espèce d'espace de liberté qui est en fait ouvert à la foule, mais quand même contrôlé par les pouvoirs publics, parce que on veut que les gens se divertissent. Bien, parce que c'est évidemment bien, on préfère qu'ils se divertissent, vous l'avez deviné, plutôt que de se révolter. Donc voilà les vauxhalls. Alors ensuite, vous avez les fêtes organisées dans les châteaux. Alors là, c'est des divertissements exigeant des aménagements incroyables. Généralement, on fait appel à des auteurs spécialisés, qui, un peu comme nos chansonniers actuels, qui inventent des poèmes à la gloire du maître de maison. Mais dans les spectacles privés, ce qui est amusant, c'est qu'il y a une espèce de complicité entre les comédiens, il y a des comédiens professionnels et des comédiens amateurs, et on se moque tout le temps des gens, on se moque. Il y a des moqueries extrêmement violentes, extrêmement, parfois très grossières, et le courant passe. Enfin, on aime cette complicité. Mais on veut toujours aller plus loin. Et alors, je vais vous donner deux exemples de fêtes à programme. Parce que nous retrouvons ce que je vous disais tout à l'heure à propos de Madame de Genlis. Il y a des fêtes à programme, et je vous donnerai deux exemples qui méritent aussi d'être médités. Le premier, ça se passe à Spa. Vous connaissez peut-être cette ville d'eau, c'est une ville d'eau, les villes d'eau sont très à la mode. Et justement, c'est Madame de Genlis qui a décidé, enfin, c'est dans la Belgique actuelle, si je ne me trompe, hein, qui a décidé de faire une fête pour la mère des enfants dont elle est la gouvernante, qui est la duchesse d'Orléans. Et donc la duchesse d'Orléans, il doit être fêtée par quelque chose de particulièrement merveilleux. Alors en fait, les enfants arrivent, mais c'est extraordinaire parce qu'on déploie une énergie pour une fête qui est totalement éphémère. Madame de Genlis, je dis ce qu'elle dit, on enleva les pierres et les rochers qui étaient dans les chemins. C'est pas seulement dans le lieu même où aura lieu la fête. On traça des routes, les bois furent éclaircis et ornés de bancs. Des ponts furent posés sur des torrents et les bois parsemés de charmantes bruyères en fleurs. Donc vous voyez, il y a une espèce d'énergie déployée pour cette fête, et en fait, la fête doit marquer le triomphe éducatif de Madame de Genlis, qui est parvenue à dresser, j'allais dire, enfin en tout cas, à faire de ses deux jeunes enfants, dont elle a la garde l'éducation, des enfants modèles qui sont capables de déployer des montagnes pour accueillir leur mère. Le deuxième exemple sera peut-être plus caractéristique de cette extravagance de la fin du XVIIIe siècle. C'est une fête qui est donnée en Normandie dans les années 60-70 chez un homme de loi qui est le président Portail. Et là, on s'appuie toujours sur un fait littéraire. On dit qu'il y a des corsaires turcs qui vont venir enlever les femmes. Alors, on y croit plus ou moins. Là, c'est évidemment douteux. Alors, on enferme les femmes de ce milieu du président Portail dans ce qu'on appelle le couvent. Vous imaginez, et on les déguise en vestales. Vestales, c'était des prêtresses qui devaient garder le feu, et qui devaient être vierges, et qui devaient garder le feu à Rome. Vous devinez que nous sommes assez loin de la virginité. Bon. Là encore, tous les gens du château se déguisent en turc, il y a une centaine d'intervenants, et on enlève les femmes. Dans le couvent, on force le couvent, on enlève les femmes. Et le marquis de Caraman, qui est le neveu du président Portail, si je ne me trompe, eh bien participe à la scène. Et Madame de Genlis dit « Oh ben non, je suis resté sur ma réserve, je ne me suis pas laissé entraîner, je ne veux pas médire de ce qui est arrivé. » Mais on devine ce qui est arrivé, hein, ça se passe très mal. Hein. Je vous laisse deviner la suite. Donc vous voyez, voilà ce qui se passe. Et j'en arrive donc à mon troisième type de fête, qui est les fêtes à Versailles, les fêtes royales. Là, bien sûr, l'étiquette demeure, et il y a même, il faut le dire, puisque nous sommes à Versailles, une nostalgie de la plus grande fête, sans doute, qui fut jamais donnée à Versailles. Je ne parle pas de l'étiquette, parce que tout le monde le devine, critiquer, évidemment. Mais quelle est la plus grande fête qui a jamais été donnée à Versailles? Ce n'est pas la fin du XVIIIe, c'est le XVIIe sous Louis XIV. Mais ça, c'est extrêmement connu, tout le monde le sait. Exactement, bravo. Les plaisirs de l'île enchantée, j'aime bien qu'il y ait du répondant, c'est parfait, c'est comme... Bon. Ce sont les plaisirs de l'île enchantée qui se déroulent en mai, si mes souvenirs sont exacts, et si ma mémoire ne fléchit pas, en mai 1664. Ça dure une semaine, et donc, c'est absolument prodigieux, Louis XIV, je ne vais pas trop développer, puisque je suis au 18e, mais je vous dirai après pourquoi il faut parler du 18e à propos de ça. Donc, Louis XIV va être déguisé en Roland, c'est une fête tirée de l'Arioste, Roland furieux, tout le monde sait. Donc c'est très connu, donc je passe très vite. Je passe très vite parce que c'est très connu, avec les effets spectaculaires sur le Grand Canal sont absolument prodigieux, tout le monde connaît ça. Ce qui est intéressant à noter, c'est que ça se situe à une époque où tout n'est pas fini dans les travaux de Versailles. C'est un peu une annonce, si vous voulez, de ce qui va venir. Alors, maintenant j'en ai 18e par rapport au fait de l'île enchantée. Ce qui est intéressant à noter, c'est que sous Louis XV et Louis XVI, il y a une espèce de nostalgie de cette grande fête, vous voyez, qui demeure absolument. Et on veut absolument garder cet esprit festif, tout en étant inscrit dans une tradition. Les fêtes ne tarissent pas jusqu'à la Révolution, et je vais passer vite là-dessus parce que c'est très connu, je veux dire. À Versailles, il s'agit de construire au plus vite pour le mariage, le futur mariage de Louis XVI et de Marie-Antoinette, qui aura lieu en 1776, un opéra que vous pouvez visiter. Oh, c'est pas ça. 70, oui, oui. Bravo, ah, je suis ravi, il y a des amateurs éclairés qui me rappellent alors pour les dates, et je vois que ma femme aussi se fronce le sourcil, donc c'est formidable. Et là, je suis dans un état de ravissement et de plaisir, parce que là, je m'adresse à des connaisseurs. Ma langue, elle est fourchue, 70, vous avez raison. Et donc, cela se fait, si vous voulez, dans la rapidité, je ne vais pas, parce que vous trouverez des ouvrages bien plus savants que le mien là-dessus, notamment sur l'opéra de Versailles, je ne veux pas, donc de Jean-Paul Gousset et de Raphaël Masson, qui est conservateur à Versailles, donc je ne vais pas développer ça, mais simplement le lien entre ces fêtes qui vont se donner à l'opéra et ce qui précède, c'est la quête des effets spectaculaires. C'est-à-dire qu'on va vouloir faire en sorte que le plancher soit mis avec un effet de treuil très rapidement à la hauteur de la scène, s'il vous plaît, on peut le faire, et on transforme immédiatement ce lieu festif ce théâtre plutôt, en lieu festif, puisque c'est là qu'a lieu le fameux bal paré, où tout le monde, où la cour va évidemment déployer son faste et ses danses. Mais alors, quelle est la nouveauté? La nouveauté par rapport à la tradition, c'est que, eh bien, l'étiquette commence à peser. L'étiquette pèse, et par exemple, les vêtements dans lesquels les femmes sont obligées de se mettre, dans lesquels elles sont engoncées, finissent par leur donner l'impression qu'elles n'ont plus aucune liberté de manœuvre, de mouvement, vous voyez. Et donc, il y a déjà une critique des fêtes, il y a une critique de la fête royale qui apparaît. Donc, vous pouvez connaître la même année, 1770, justement, la fameuse fête, je m'adresse à vous pour savoir si vous connaissez. Si vous connaissez, je vais passer vite, parce que c'est une fête absolument catastrophique qui a lieu là, à la suite, qui a lieu à Paris, à la place de la Concorde, qui s'appelait la place Louis XV à l'époque, et qui tourne mal. Je vous le raconte brièvement, parce qu'elle est tout à fait symbolique aussi, quelque chose qui ne tourne plus, rond. Imaginez la scène suivante. Il s'agit donc, là c'est une fête qui accompagne la fête royale qui a lieu à Versailles. La fête royale qui a lieu à Versailles en 70 doit être accompagnée d'une fête populaire. C'est la tradition, ça se passe toujours comme ça. Il y a des fêtes populaires depuis le Moyen-Âge, où l'on lance aux gens, vous savez, force boudin, force nourriture, qu'ils attrapent. Les philosophes commencent à critiquer ce type de fête qu'ils trouvent d'une grossièreté, voire d'une barbarie tout à fait condamnable. Mais en fait, on essaye de faire ça. Mais on essaye aussi de faire une fête qui soit spectaculaire et digne. Et surtout, l'époque veut que ce soit le feu d'artifice qui soit la marque la plus somptueuse de la fête. Seulement, voilà ce qui arrive. Il y a un temple de l'hymen qui est fait de stuc et de bois et de carton, qui est déposé sur la place Louis XV. Et au moment où une fusée est lancée, eh bien, elle va retomber sur ce temple qui est fait de matière inflammable, qui va immédiatement s'enflammer et provoquer une panique terrible. Et il va y avoir 200 morts à peu près. Parce que les gens sont compressés dans la foule, ils ne peuvent plus se déplacer, ils ne peuvent pas être évacués par la rue Royale parce que la rue Royale est bloquée, la police n'a pas pris les mesures nécessaires, ils ne peuvent pas aller vers les Tuileries. Et ce qui est intéressant, seule petite note intéressante que je voudrais ajouter là-dessus, c'est qu'au début, il n'y a pas de panique. Parce que le feu qui prend, c'est très intéressant pour l'imaginaire de l'époque, le feu réel qui prend dans ce temple de l'hymen est pris pour un effet spécial. Les gens croient que c'est une dimension encore plus extraordinaire, puisqu'ils sont à l'affût, mais vraiment à l'affût du spectaculaire, que les artificiers auraient réussi à produire. Le résultat est tellement dramatique, et évidemment, la presse s'empare du fait, et pour la monarchie, c'est plus qu'un échec, c'est une manifestation, évidemment, d'une erreur profonde que les journalistes vont s'empresser de critiquer au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, puisqu'on arrive, si vous voulez, un peu dans ce paradoxe qui veut que la fête soit nécessaire à un régime, elle est consubstantielle à la royauté, la fête. On ne peut pas s'empêcher de fête, c'est un moyen de gouvernement. Et en même temps, la critique philosophique commence à dire mais c'est un gaspillage, toutes ces sommes d'argent qui sont dépensées pour des événements finalement éphémères, eh bien, devraient plus servir évidemment à améliorer le sort des plus pauvres. Vous voyez, donc il y a une espèce de basculement. Ça me fait penser à une autre idée aussi intéressante pour Versailles, qu'on pourrait placer dans ce moment d'inquiétude et de crise culturelle. On veut à l'époque de Louis XVI refaire le parc, enfin réaménager le parc de Versailles, faire des allées qui soient plus cadrées. Et donc il y a une réflexion qui commence à être une réflexion patrimoniale, si vous voulez, en même temps. Puisqu'il s'agit de restaurer pour préserver, mais en même temps, d'autres disent « Mais alors, si on restaure, on va supprimer ce qui était notre patrimoine. » Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une espèce de dilemme entre, pour les gens, et ça fait partie de cette crise culturelle de la fête, aussi, et surtout des festivités, est-ce qu'on garde la tradition, ou bien est-ce qu'on essaye de l'adapter au temps moderne? Ça aussi, et ça c'est tout à fait pour le... Là je suis dans le problème du pouvoir royal cette fois, ce n'est pas du tout l'espace privé. Donc voilà ce qui se passe, alors que la fête est extrêmement importante, pour revenir toujours à cette fête royale, puisque c'est 1750, au milieu du siècle, qui se passe à une année près, on crée les fameux bâtiments de papillons de la Ferté, vous savez ça, et ces papillons de la Ferté qui va devenir effectivement le responsable de tous les décors festifs, des ornements, tout en étant évidemment dirigé par les quatre gentilshommes de la cour, de la chambre du roi, qui eux détiennent les cordons de la bourse. Mais enfin, bon, il y a donc là une politique financière qui continue, même pendant la crise que connaît la fin de l'Ancien Régime, avec des grands artistes, je suis à Versailles, je suis obligé de développer un peu ça, qui sont désignés pour occuper une fonction du cabinet du roi, du Rameau pour la peinture, peintre du cabinet du roi, Moreau le Jeune pour la gravure, et pour le dessin, c'est Paris. Vous voyez ? Donc vous avez ces trois noms prestigieux qui vont participer à ces fêtes organisées par le roi. C'est ce qu'on appelle les bâtiments des menus plaisirs, hein, c'est les fameux menus plaisirs. Donc vous voyez, les fêtes continuent, mais quand même avec difficulté, à la fin du XVIIIe siècle, et voilà toutes ces fêtes qu'on peut montrer, qui révèlent finalement à la fois une somptuosité évidente, une magnificence totale, mais en même temps une crise culturelle avec des hésitations, des doutes et parfois des catastrophes. J'en viens maintenant aux folies. Alors, les folies se développent de manière spectaculaire dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Parmi les plus connues, Bagatelle, vous connaissez peut-être, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est très connu, je m'attarderai plutôt sur la dernière, qui est la plus spectaculaire et qui est celle du désert de Rex. Enfin, je donne quand même quelques noms et je vais vous en montrer certaines, si j'y arrive, ce qui n'est pas sûr, mais je crois pouvoir. C'est là. Ah voilà, c'est bon. Voilà. Alors, là, vous avez Carmentel, alors, qui est un des personnages clés dans l'ordre de l'invention technique pour différents jeux, ce qu'on appelait le cinéma au XVIIIe siècle, hein, avec un défilé d'images qu'il est capable d'inventer pour justement l'espace privé, et pour les nobles, et qu'il est en train de remettre les clés du parc Monceau que vous connaissez au Duc de Chartres vers 78. C'est très connu, je passe là-dessus parce que c'est simplement pour vous mettre dans le bain et vous voyez toutes ces fabriques, ces moulins. Alors vous connaissez sans doute le parc Monceau actuel, c'est très connu, mais qui représente vraiment une faible partie du parc originel qui appartenait donc au Duc d'Orléans, qui se trouve dans le 17e arrondissement à la station Monceau, vous voyez, et qui était absolument immense et qui a été un véritable laboratoire pour les nouvelles fabriques, hein, vous voyez, des temples, des moulins, qu'on appelle des fabriques, hein, ces objets décoratifs, des fosses, oui, bon, tout ça est connu, je passe vite. Mais je voudrais m'intéresser plutôt. Alors, Bagatelle, c'est la folie. Pourquoi ça s'appelle Bagatelle? Vous vous souvenez peut-être, c'est très connu aussi. Hein, c'est parce que c'est le comte d'Artois, qui était passé, qui avait vu Marie-Antoinette et qui devait se rendre à Fontainebleau. Et il lui a dit Je vais vous construire en 60 jours. En quelques jours, je ne dis pas le nombre de jours, ça sera en 60 jours, tout allure, ce pavillon qui est au bois, et ça va être absolument extraordinaire. C'est une bagatelle. Le seul ennui, c'est que pour construire cette bagatelle, il arrête, là aussi c'est une extravagance extraordinaire, tous les plâtriers, tous les gens qui transportaient dans Paris des matériaux de construction, qui sont réquisitionnés pour la construction de bagatelles, dans Bois de Boulogne, il les paye évidemment, mais le seul ennui, c'est que tous ces matériaux étaient déjà vendus. Vous voyez le problème? Alors évidemment, c'est un peu ennuyeux. Il y a des choses comme ça qui se passent dans cette deuxième moitié du 18e. Je passe donc, dernière, ça m'intéresse plus, c'est peut-être un petit peu moins connu, en tout cas c'est connu, mais on peut gloser là-dessus. C'est donc le désert de Rex. Alors, c'est intéressant parce que c'est la dernière folie avant la Révolution qui est créée, c'est près de Maison Lafitte, vous savez, peut-être. Et là, c'est le comble de l'extravagance puisque vous avez une colonne tronquée qui est volontairement inachevée avec des fissures, on ne voit pas bien, des fissures et qui sont installées volontairement. L'intérieur est absolument somptueux, hein. On ne peut pas voir, là, c'est en noir et blanc, mais il y a des chambres d'un luxe inouï qui sont décorées encore par les meilleurs décorateurs. Ça fait penser un peu, donc au tableau de Bruegel représentant la tour de Babel, vous voyez, c'est extrêmement symbolique, c'est un instant figé, c'est comme un instant figé, c'est une catastrophe, c'est en même temps l'idée de l'éphémère, vous voyez. Enfin, vous voyez tout ce qu'on peut dire autour d'un tel monument. On pourrait dire aussi plein de choses là-dessus. On pourrait dire aussi que c'est dans l'histoire. Ça ne se rattache à aucune tradition. Enfin, Bruegel, c'est autre chose. Mais je veux dire, c'est pas le rococo, c'est pas le néoclassicisme. Il y a des historiens d'art parmi vous. C'est la première fois que l'extravagance et l'insolite, pour vous donner d'autres exemples, pourraient être développés, ne s'inscrivent plus, même dans une tradition, pourrait-on dire, pour la renverser. C'est autre chose. On est dans un monde différent. Donc là, c'est tout à fait intéressant de voir cette espèce de quête du singulier. Là, évidemment, les faits sont multiples ici. Et il y a une espèce de raffinement suprême, je pourrais dire, et de quête de la singularité qui finit par s'épuiser. Parce que ces constructeurs vivent dans un milieu quand même fermé, raréfié, si vous voulez, et se copient malgré tout les uns les autres avec leur fabrique. Donc c'est très étrange. Nous avons le comble du raffinement, mais aussi une sorte, je dirais, d'épuisement. Bon, alors ça me mène à ma troisième partie, je n'avais pas avancé, donc c'est pour que vous suiviez bien mon plan. Hein. Donc les fêtes, les folies, et maintenant j'en viens aux surenchères et aux travestissements. Parce que la transition est toute trouvée. Lorsque vous arrivez à des limites, comme celles que vous avez sous les yeux, quand les fêtes sont les plus somptueuses possibles, que faire pour aller plus loin? Alors ça, c'est beaucoup moins étudié. C'est beaucoup moins étudié, et par les littéraires, pas étudié par les littéraires, et par les historiens purs, je suis plutôt un littéraire, les deux, parce que les deux doivent se rejoindre. Et je vais vous donner des exemples frappants de ce que je veux dire. Tout le monde connaît le mot persiflage au XVIIIe siècle. Le persiflage est interdit dans les traités de bonne manière, dans les traités, ce qu'on appelle les traités de civilité. Persifler, ça signifie prendre un bouc émissaire, dans les fêtes continuelles, prendre un bouc émissaire, amener une personne qui c'est pas très bien ou qui ne connaît pas les usages, puis vous vous moquez de lui avec le concours d'autres personnes qui connaissent eux les usages. C'est ça le persiflage. Donc on se moque de lui sans qu'il s'en rende compte. Ça me fait penser à un film qui s'appelle Le Dîner de con. Voilà, vous voyez, on a le même. Je n'y avais pas pensé. C'est en parlant que j'y pense. Vous voyez, il y a des points communs. Hein. Il y a parfois des points communs entre le 18e, on pourrait y revenir dans la conclusion. Donc, voilà ce qui se passe. Bon, ben le persiflage ne suffit pas. Et c'est pour ça qu'on passe à la mystification, voire à la manipulation. Et là, on arrive à des choses extraordinaires. Vous connaissez tous l'affaire du collier, puisque j'ai vu que ça va. Mais vous ne faites pas le rapprochement, j'ai tout fait, entre l'affaire du collier, je vais le faire tout de suite, et la plus grande œuvre littéraire du XVIIIe siècle, incontestablement, indépendamment de la morale, qui est Les liaisons dangereuses de Coderlos de la Croix. Eh bien, les deux, un fait, Les liaisons dangereuses, c'est une fiction. Simplement, on a cherché des modèles réels, mais ça ne marche pas, mais ça n'a aucun intérêt, c'est une fiction. Mais cette fiction relève d'un climat qui est totalement réel et totalement manifesté dans l'affaire du collier. Qu'est-ce que l'affaire du collier? Alors l'affaire, et puis il y a des liens entre l'affaire du collier et le mariage de Figaro. J'explique ça. Et dans le domaine notamment festif. Ce malheureux cardinal de Rouen, je dis malheureux, c'était un bourbonnais et pas très sympathique et plutôt intéressé. Bon, quand il est manipulé par la madame de la Motte, il y a un moment où il doit rencontrer dans le jardin de Versailles, justement, une fausse Marie-Antoinette, qui est une prostituée qui s'appelle, si mes souvenirs sont exacts, Madame Leguet, Mademoiselle Leguet. Et donc, il y a toute une mise en scène, elle arrive, Mademoiselle Leguet ne sait pas pourquoi on lui fait jouer ce rôle. C'est ça la grande manipulation, elle n'est pas au courant, elle n'est qu'un simple pion dans l'échiquier. Et tout ce qui semble invraisemblable dans l'affaire du collier, puisque ça tombe tellement incroyable avec cette histoire de bijoux, de bijoutiers qui sont donc achetés, enfin ensuite on veut les récupérer près de Marie-Antoinette, enfin plus pour rien, bon. Tout ce qui semble invraisemblable, eh bien, l'est grâce à ce climat de manipulation extrême, puisque la scène a lieu dans une espèce de pénombre dans le château de Versailles, où, vous voyez, Rohan se retrouve entre une fausse Marie-Antoinette et finit par mordre dans l'hameçon. Nous sommes en pleine manipulation. Quant aux liaisons dangereuses, ce n'est pas du tout. C'est pas intéressant de parler de libertinage. On parle toujours de libertinage, c'est vrai, mais on nous casse les oreilles avec le libertinage. Il y a plein de livres qui paraissent là-dessus. C'est pas très intéressant. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que la marquise de Merteuil parvient à duper tout le monde. À la fin, elle est sanctionnée. Symboliquement, elle reçoit, elle perd un œil. Hein, parce que c'est un œil qui voyait tout. C'est tout à fait symbolique. Mais elle parvient, en grande intellectuelle, à duper tout le monde, à les manipuler grâce à son pouvoir de séduction et surtout à ses stratégies d'une extrême habileté. C'est la même chose que c'est ce qu'on essaye de faire aussi pour l'affaire du collier, c'est ce qu'essaye de faire Madame de la Motte, vous voyez. Donc il y a des points communs ici. Donc, la manipulation. Deuxième point, la folie, alors c'est intéressant, devient aussi, dans cette transgression, hein, je suis dans les transgressions, dans les cas extrêmes, elle devient, comment dirais-je, un objet de recherche, de quête, même dans certaines sociétés du XVIIIe siècle. Je m'explique. Tout le monde connaît le salon. Tout le monde connaît ce que c'est que le salon, même du défunt, ou surtout le salon de Madame Geoffroy. Peut-être connaissez-vous moins le salon de Madame de La Ferté-Imbault, qui est la fille de Madame Geoffroy. La fille de Madame Geoffroy va prendre le contre-pied de sa mère et va fonder ce qu'on peut appeler, il y en a d'autres à la fin du XVIIIe siècle, ce qu'on appelle une société badine. Une société badine, c'est une société, alors là, ce n'est pas du tout grivois, comme je l'ai expliqué, comme je l'ai vu dans certaines occasions, c'est une société où l'amusement, la gaudriole et la fête deviennent l'objet essentiel. J'ai retrouvé, il faudrait que le titre lui-même est tout à fait intéressant. On appelle Madame de La Ferté-Imbault, et je pourrais gloser là-dessus, sa très extravagante majesté lanturélienne, fondatrice de l'ordre et autocrate de toutes les folies. Mais je prends le mot folie vraiment là dans tous les sens. C'est-à-dire que, et le dieu qui est dans le rang inculte, c'est Momus, le dieu de la folie. Alors, tradition de la folie, qui ne faut pas que je force, vous pourriez faire l'objection de dire que j'exagère, parce qu'il y a une tradition festive de la folie qui est culturelle, évidemment. Mais quand même, les gens se déguisent, les gens vont très loin, et alors, chose extraordinaire, vous avez là des gens des sociétés poreuses, si vous voulez, ça serait un autre débat, mais je ne fais que l'ouvrir. On a parlé c'est pour ça que j'ai travaillé sur l'antiphilosophie et la philosophie, si vous voulez, les adversaires des philosophes ou les philosophes. Il y en a certains qui se vont dans ces sociétés badines. Madame de Staël, ça c'est pas connu des non-spécialistes, Madame de Staël, eh bien, elle va aller dans sa jeunesse chez la marquise de La Ferté-Imbault, qui pourtant, de Staël, qui est un esprit critique, complètement acquis aux Lumières, et qui va essayer de dépasser, va condamner la terreur tout en voulant rester, si vous voulez, inscrite dans les Lumières, qui est une femme absolument extraordinaire, là, dont il faut vanter les mérites, ben, elle va. La société badine, elle est dans ces espèces de folies que l'on traite, vous voyez, que l'on mime. Autre exemple, et qui va dans mon sens aussi, de cette extravagance, c'est la littérature, c'est beaucoup moins connu, là, ce ne sont plus les liaisons dangereuses, mais c'est un personnage qu'on pourrait appeler un fou littéraire, et qui s'appelle Chassé. pouvez lire, il est sur Internet, vous pouvez lire. Il écrit un ouvrage qui s'appelle « Les cataractes de l'imagination et les vomissements, je ne sais pas ce qu'il a senti de fait, s'inclinent ». Il est complètement tapé, hein, tout de suite. Il est digne d'aller dans les petites maisons, on dit au XVIIIe siècle. Et c'est quelqu'un d'une grande folie, sans doute, mais qui écrit. Il écrit pas si mal, tout d'un coup, mais il délire. Mais ce délire est quand même apprécié, vous voyez, on apprécie ce délire. C'est tout à fait significatif. Comme j'ai quitté mes notes, je risque évidemment d'oublier des choses, mais une chose que je ne voudrais pas oublier pour terminer ce point, c'est, et je suis également dans le domaine de la folie, il y a une mode littéraire à laquelle participe Madame de Staël, pas connue, certainement pas de vous non plus, à moins que, qui est ce qu'on appelle la folle par amour. Alors, la folle par amour, c'est un terme qui vient d'un opéra, tout à fait médiocre, d'un certain Marcelier de Wister, qui s'appelle la folle par amour. Qu'est-ce que c'est que la folle par amour? Le thème est clair. C'est une fille, une femme, dont les parents, que les parents veulent empêcher d'épouser celui qu'elle aime, et qui devient complètement folle. Ça plaît énormément. C'est une véritable... La femme qui est dans cette situation tombe dans l'hystérie. Et il y a des descriptions dans cet opéra d'hystérie, à savoir confusion mentale et surtout irrégularité des émotions avec passage d'un état à un autre, une espèce de passage d'état à un autre continuel. Ça passionne les gens. Donc à partir de là, vous avez des séries, tout le monde se met à écrire sous des noms différents, la folle par amour, enfin avec des noms différents, mais qui paraissent souvent dans les journaux. Ça fait quand même pas mal de choses qui se passent à cette fin du XVIIIe siècle, vous voyez. Et je crois qu'il est temps de conclure, parce que sinon, je vais peut-être vous ennuyer. Donc, la conclusion pourrait être très longue. Il y a énormément de choses, je pense, à tirer de tout ça. Il faut éviter, évidemment, les jugements hâtifs et être extrêmement prudent, sans commettre d'anachronisme. Et la première idée qui me vient à l'esprit pour éviter toute confusion, c'est que ces fêtes et folies que je viens de vous décrire, elles sont le fait d'un milieu social. Il ne faut pas trop les... Enfin, en tout cas, les fêtes, hein, élargir à l'ensemble de la population, ça serait beaucoup plus compliqué. Et c'est essentiellement, c'est très simple, là, je n'ai pas besoin de faire une analyse profonde, ce sont essentiellement des gens oisifs et qui essayent de, si vous voulez, d'occuper leur journée par des spectacles que l'on peut, qui sont mémorables ou qui sont marqués par une forte singularité. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, cela continue même en 89, hein, j'ai des exemples. Au moment où ça bascule, il y a les deux, il y a l'extrême sérieux, les gens s'intéressent à la politique aussi, mais ça côtoie une très grande frivolité et une fuite dans la fête. Et enfin, troisième idée aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, et ce qui est peut-être le point le plus intéressant à causer, c'est que c'est une période d'immense raffinement. Et que les Hubert Robert et tous les peintres de cette époque, et les ornemanistes, j'allais dire Fragonard, c'est pour ça que j'hésitais, mais Fragonard, puis on peut dire Fragonard, puisqu'il a aussi continué même sous la Révolution. Les Hubert Robert et les Fragonard, eh bien, peignent évidemment toutes ces fêtes, et là, il faudrait s'étendre sur un des tableaux les plus, à mon avis, les plus extraordinaires de Fragonard, qui est le suivant, voilà, qui est l'île d'amour ou la fête en Rambouillet vers 1780. Vous voyez, c'est tout à fait mon sujet. J'ai pas beaucoup de temps de le commenter, mais vous avez, c'est comme une fête galante en fait. Vous avez la nacelle qui va, comme chez Watteau, hein, qui va à une autre époque, qui se rend vers une île. Vous avez une composition qui est tout à fait rococo avec ses. Grotte de verdure, cet arbre foudroyé et ses éléments zigzags. Donc il y a là un imaginaire extrêmement prodigieux, mais en même temps du réalisme. Hein. Il semble qu'il y avait des fêtes comme ça, en Guyenne, qui se passaient comme ça. Donc, c'est absolument splendide, mais les Hubert Robert peignent aussi les incendies, évidemment. évidemment, et un chaos, il peigne le chaos aussi, hein, vous voyez, dans d'autres tableaux, un univers complètement chaotique, dont il faudrait évidemment tenir compte. Alors c'est ça qu'il faudrait prolonger, parce que je vous le disais en début de cette causerie, de ma conférence, je rattache ça à un quatrième, à un élément que je n'ai pas du tout développé, qui serait très long et très compliqué, ce qu'on pourrait appeler l'inquiétude fin du XVIIIe siècle, et qu'il faudrait analyser dans les termes suivants. C'est une période de très grande rupture culturelle, aussi avant la Révolution, on l'oublie. Exemple, dans le domaine des sciences, l'évolution scientifique est très grande, et on passe par exemple du phlogistique, qui était l'ancienne chimie, à la chimie moderne. On passe aussi, on commence à avoir une conception tout à fait neuve de la chimie et de la physique, et il y a des nouveaux savoirs qui surgissent et qui sont de plus en plus spécialisés. Et les gens, si on creuse un peu, c'est je passe là-dessus 5 minutes, il faudrait rester des heures entières, ont parfois l'impression qu'on ne se comprend plus parce que tout le monde est enfermé dans un savoir spécialisé. Le latin n'est plus la langue commune, n'est pas approprié évidemment aux sciences nouvelles. Donc, en même temps qu'il y a fuite en avant et désir de réforme, il y a une espèce de peur, et presque de peur du babélisme. Je développe ça un peu dans mon livre, et la tour de Babel que je vous ai montrée, sans faire de surinterprétation, la tour de Babel, c'est-à-dire la tour du désert d'Oretz, que vous avez vu tout à l'heure, pourrait être, vous voyez, le symbole de tout ce que j'essaye de montrer. Voilà. C'est pour ça, parce que je termine là-dessus, je n'ai pas étudié les faits pour les faits en elles-mêmes. Je les étudie aussi comme support, ou plutôt comme symptôme d'autres choses qu'il faudrait creuser, que je ne creuse pas parce que c'est aussi des limites d'un livre et du public auquel il s'adresse. Ce n'est pas un livre savant, hein, ce n'est pas un livre de grande érudition, c'est un livre qui a ses frontières et ses limites, vous voyez. Voilà. Je m'arrête là, mais j'attends vos questions. C'est que les gens qui cherchent les fêtes ou qui s'abandonnent à la frénésie festive sont pas forcément des oisifs, et que c'est une société au contraire qui est dans une sorte d'agitation souvent professionnelle, enfin en tout cas dans un monde d'activité, et la fête est une sorte de 21e siècle d'exutoire. Mais alors le point commun quand même, je pense que ce serait cette espèce d'inquiétude temporelle quand même, hein, qu'on retrouve. Et ça se retrouve au XVIIIe siècle, je l'étudie un peu dans mon livre. Imaginez par exemple Petit de la Bretonne, qui est un écrivain très très étudié à l'heure actuelle, qui est souvent d'ailleurs tourné vers les fêtes lui aussi, et qui est tellement inquiet dans les années 80, du monde qui passe, qu'il inscrit sur les pierres de Paris des inscriptions où il marque ce qu'il a fait le jour même, comme s'il voulait retenir le temps. Vous voyez. Et là, il y a des points communs avec le 21e siècle où la fuite en avant dans la fête individuelle ou avec des copains, mais qui est quand même est une façon de nier le collectif et d'oublier peut-être le temps qui passe, le futur, un futur qui peut sembler dangereux ou inquiétant. Mais on peut développer, bien sûr. Peut-être d'autres questions ? peux essayer d'en inventer, mais je vais avoir du mal. Pardon ? La vie de l'Église. Alors, très bien, oui, bien sûr. Ah, c'est une bonne question. Très bonne question. Alors, ça, c'est. Oui, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. J'en parle un peu d'ailleurs. Oui. Alors, l'Église, elle est très gênée pour deux choses. Elle veut continuer, bien sûr, les fêtes religieuses, évidemment. Elle est très attachée. Mais elle est divisée parce que. Elle est divisée et certains, en fait, d'abord, avant de parler du fait qu'elle est divisée, excusez-moi, il faut d'abord dire qu'elle partage, on ne l'a pas suffisamment dit, un certain nombre de critiques avec les milieux intellectuels. Il y a, comme toujours, des radicaux de l'Église, des intégristes, ça c'est différent, mais toute une partie s'est convertie un peu, même parfois fortement aux Lumières, comme on y dit. Et donc, les fêtes apparaissent comme un moment qui ne devrait plus exister, qui est le moment où les gens se livrent à l'ivrognerie, où ils vont au cabaret, il faudrait fermer les cabarets, il faudrait fermer les tavernes, tous ces lieux de débauche, et l'Église est extrêmement critique à cet égard. Et elle rejoint celle des philosophes qui sont utilitaristes, alors ça c'est très connu, vous le savez sans doute, où on veut limiter les jours chômés parce que c'est pas assez productif. Il y a tellement de jours chômés qu'on veut les limiter. Donc il y a une critique. Alors il y a une critique de l'hédonisme festif assez fort donc au 18e, dans cette deuxième moitié du 18e, qui vient à la fois de l'Église et à la fois d'un certain nombre de philosophes qui prônent la vertu. Quelqu'un comme Mably, par exemple, le philosophe Mably, et qui veut un retour, enfin qui s'inspire de l'Antiquité, qui s'inspire de Sparte, vous voyez, de l'ascétisme même, et qui est totalement opposé à ce gaspillage festif. Oui, ça c'est vrai, il y a une critique. Hein. Aussi, ce que j'aurais pu dire, il y a quelqu'un qui fait un article dans mon livre, il avait raison, dans Le Monde, c'est dans Le Monde, je crois, où il y a aussi un des grands thèmes à la mode au 18e, c'est le luxe. Alors là, il y a tout un pan de réflexion qu'on peut faire. Alors, le mot luxe signifie au 18e, comme de nos jours, une sorte de richesse sans limite, accompagnée de beauté. Alors, il y a un débat sur le luxe, et certains disent, c'est bien, le luxe, c'est bien, et les fêtes qui s'en suivent, c'est bien, parce que ça fait travailler le commerce. Et puis d'autres, qui c'est la femme des abeilles de Mondeville, je ne sais pas si c'est le début du 18e, qui est repris, je ne sais pas si vous connaissez ce récit de ce livre de Mondeville, La fable des abeilles. Et puis il y en a d'autres qui disent non, c'est pas bien du tout, c'est une énergie dépensée en vain, et il faut arrêter ça parce que c'est l'âge de la superstition. On est dans un autre monde. On est dans un monde qui doit disparaître au profit d'une raison régulatrice. Qui doit au contraire encadrer tout et ne pas laisser les gens se livrer à des attitudes, j'emploie le mot de l'époque, il faudrait dire baroque. C'est le baroque qui est mis en cause, de même que le baroque de la ville, le baroque, c'est-à-dire les vieilles rues de la capitale, sont critiquées parce que c'est baroque, parce que c'est vieux, parce que c'est moyenâgeux, et qu'il faut des rues propres et grandes et belles et rationnelles, et dans un espace rationnel. Et pas de fêtes, ou des fêtes vraiment limitées. Voilà. Je suis prêt à écouter d'autres questions. Pardon ? Oui.
Et les fêtes sont
là également contre la vie, c'est légère ? Oui, il y a des fêtes continuelles, ça vous avez raison, j'aurais pu insister là-dessus, vous avez tout à fait raison. À propos des fêtes régulières, j'aurais dû dire, je n'ai pas tout dit, il y a des fêtes pour les anniversaires royaux, il y a des fêtes, là je parle des fêtes organisées par le pouvoir, les fêtes pour les mariages, les fêtes pour les victoires militaires, tout à fait, vous avez raison. La guerre joue un rôle très important dans les fêtes. Il faut effectivement, vous avez tout à fait raison de le rappeler, donc il y a des fêtes considérables pour la victoire, la guerre d'Amérique, par exemple, quelque chose comme ça. Bien sûr. Tous les événements de la vie politique et collective doivent faire l'objet d'une fête. Ça pourrait réfléchir à ça, bien sûr. Alors ça, c'est peut-être aussi une chose qui disparaît aussi plutôt chez nous. Pas sûr, on n'est plus. Alors il y aura aussi des choses à dire, des mots très simples, mais on est. Il le disait déjà au XVIIIe siècle. L'espace urbain du XVIIIe siècle semble impropre à des fêtes trop riches, parce que c'est pas bien adapté, etc. L'univers de la rue à l'heure actuelle, et de la voiture, je dirais de la bagnole et la fête ne sont pas très compatibles pour les fêtes publiques. Voilà. Bon, ah voilà.
Merci.
Sur les enjeux, la politique, la